Nous voici pour cette quatrième rencontre du catéchisme pour adultes. La semaine dernière, nous avons parlé du mystère de Dieu en lui-même, ainsi que du dessein que Dieu a de toute éternité pour sa création, pour ses créatures. Nous avions parlé les semaines précédentes à la fois de la création du temps, révélant Dieu comme l'éternel, au-delà du temps, au-dessus du temps. Nous avions parlé de la création du monde angélique, de la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, nous allons comme raccrocher un certain nombre de wagons. Nous allons reparler des anges, nous allons reparler également du genre humain que nous formons. Nous allons nous réapproprier ce dessein de Dieu qui veut faire de nous des fils. Et nous verrons que tout cela a sa source en Dieu. Lorsque nous avons parlé de la création des anges, puis de la création de l'homme, je vous avais dit qu'au ciel, nous formerons une même société avec les anges. Pourtant, nous sommes très différents des anges, mais si nous ferons au ciel une même société avec les anges et nous, le genre humain, c'est parce qu'il y a une même communauté de fin. La fin, F-I-N, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, parce que nous sommes dans le temps. Bien, la fin, en raison de l'éternité divine, elle est semblable au commencement. Je vous dis ça d'une façon beaucoup plus simple. Il y a cette expression qui dit « il faut commencer comme on veut finir ». Ça dit, ben voilà, si on a de bonnes dispositions quand on commence l'ouvrage, il n'y a aucune raison pour qu'à la fin, l'ouvrage ne soit pas bien réalisé. Eh bien, pour Dieu qui est au-delà du temps, qui est dans cette éternité, eh bien, il n'y a ni commencement ni fin. De telle sorte que lorsqu'il va créer le monde angélique, lorsqu'il va créer le genre humain, il le fait avec une idée bien précise et il veut nous conduire à une fin que nous avons en commun avec les anges. Quelle est cette fin de Dieu ? Cette fin, pardon, que Dieu assigne aux anges et aux hommes, c'est ce que nous appelons la béatitude. Dieu nous a créés pour que nous soyons bienheureux, que nous rentrions dans cette vie divine. On l'a vu la semaine dernière, Dieu veut faire de nous des fils. Eh bien, nous avons tout d'abord notre nature humaine. Il y a cette vie de la grâce en nous qui est là pour nous conduire justement eh bien, vers cette fin, que nous soyons bienheureux. Les anges aussi sont créés pour connaître ce bonheur éternel. Je vous avais dit, saint Thomas d'Aquin nous dit, les anges sont supérieurs aux hommes. Ils le sont du point de vue de la nature, nous dit-il, parce que, étant donné qu'ils sont pur esprit, de ce point de vue-là, ils ressemblent davantage à Dieu que nous-mêmes. Lorsqu'on avait parlé de la création des anges, il avait fallu que nous postulions comme un instant dans lequel l'ange est dans le temps, c'est nous qui le comprenons ainsi, dans le sens où l'ange, il doit se décider, est-il du côté de Dieu ou pas ? Ça veut donc dire déjà que l'ange, comme l'homme, est libre, eh bien, de choisir Dieu. Et cette liberté, elle appelle la foi. L'ange aussi doit avoir cette confiance en Dieu. Il doit éteindre tout ce qu'il est, son intelligence, pour accepter, eh bien, de faire confiance à Dieu, qui va le faire entrer dans la vie éternelle, dans cette béatitude qui est promise aux anges et qui nous est promise à nous-mêmes. Les anges qui sont du côté de Dieu, eh bien, immédiatement, ils sont glorifiés. C'est-à-dire, ils sont aujourd'hui bienheureux, ils voient Dieu face à face. Les anges déchus, quant à eux, eh bien, ont refusé Dieu. Hein? Mais du coup, ces bons anges, ils sont déjà, si vous voulez, ils nous sont aussi supérieurs, parce qu'ils ont déjà la pleine possession de la fin pour laquelle Dieu les a créés. Ils sont bienheureux. Alors voyez, l'ange a le régime de foi qui lui dure quelques instants, on est obligé de poser ça, après l'ange est dans l'éternité divine, tandis que nous qui sommes dans le temps, eh bien il y a la coopération de la nature et de la grâce. Je vous ai dit, il faut faire attention, il y a deux économies pour un même projet. Dieu veut faire de nous des fils. Hein? Et d'abord, nous allons commencer par regarder Adam et Ève, tels qu'ils sont créés au commencement. Adam et Ève, donc, ils ont la nature humaine que nous avons, une nature humaine qui est beaucoup plus harmonieuse que celle que nous connaissons. Il n'y a pas, si vous voulez, de tiraillement intérieur. On est vertueux, la vertu s'acquiert plus facilement qu'après le péché, il n'y a aucune tentation du mal, il n'y a pas de mauvais regard malveillant, il y a cette grande harmonie vis-à-vis de Dieu, mais il y a aussi l'harmonie intérieure, parce que nous pouvons avoir ensuite du péché bien du mal-être intérieur, des maladies qui ne sont pas que corporelles, mais des maladies aussi qui vont venir atteindre comme notre âme, comme notre esprit, toute cette dissension qu'il peut y avoir également avec la nature, où un certain nombre d'animaux pourraient nous valoir du mal. Rien de tout cela dans l'économie originelle. Il y a cette très grande harmonie entre l'homme et Dieu, une très grande harmonie de l'homme en lui-même, et également une grande harmonie entre l'homme et la nature. Cette grande harmonie de la création, elle vient justement de ce que Dieu est notre origine commune. Après le péché, ça sera différent. On verra qu'il y a en nous, après différents mal-êtres, qu'il y a la jalousie, qu'il y a l'orgueil, qu'il va y avoir un rapport de possession avec la nature, et vis-à-vis de Dieu, comme une méfiance, on ne le connaîtra pas aussi facilement. Mais tout cela est après le péché. Au commencement, voilà que nous sommes créés dans cette grande harmonie. Adam et Ève ont leur nature, une nature qui n'est pas viciée, une nature qui n'est pas corrompue, une nature qui est beaucoup plus ouverte au monde de la grâce. Oui, Adam et Ève ont besoin de la grâce, même dans le jardin éternel. Pourquoi ? Parce que Dieu les appelle à une fin qui dépasse la simple capacité de leur nature. On ne peut pas aller au ciel par la seule force de nos bras. Voyez-vous, il y a ce récit, peu après le récit de création, qui est celui de la tour de Babel. Tour de Babel, voilà que le genre humain, qui parle encore la langue commune, une même langue, décide, c'est le premier système totalitaire, voilà que l'on décide de bâtir une tour, à la force de nos bras, en fabriquant des briques, que cette tour, c'est comme les gratte-ciel, va finir par atteindre le ciel, et quel est le projet de cette humanité, déjà atteinte du péché ? C'est de pouvoir monter à partir de cette tour, arriver au ciel, faire basculer Dieu pour le laisser sur la terre et être enfin pleinement maître du ciel à la seule force de nos bras. Bien, tout cela porte vraiment la marque du démon et du péché, non seulement parce que le récit de la Genèse nous dit que Dieu n'en finissait pas de se pencher pour voir cette tour qui jamais n'arriverait à la hauteur du ciel, et c'est pour raison pour laquelle Dieu va décider de confondre leur langage, voyant ainsi cette humanité déviée de ce pourquoi elle est créée. Nous ne sommes pas faits pour les systèmes totalitaires, nous sommes faits pour la liberté, nous sommes faits pour le bien, nous sommes faits pour le beau, et bien tout cela, voilà que le bon Dieu va dire, maintenant on va les diviser en des langues diverses pour ne plus qu'il y ait comme ça cette forme de mainmise. Et nous avons la réponse parfaite à Pentecôte, où l'Esprit Saint est donné, et voilà que les apôtres se mettent à parler toutes les langues, sans même les avoir apprises. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que Adam et Ève, au commencement, non seulement ils ont la nature, ils ont cette grâce de Dieu à laquelle ils sont très perméables, ils reçoivent vraiment la grâce de Dieu, et ils sont comme nous, après le péché, comme nous aujourd'hui, ils sont, comme on dit en théologie, in via, c'est-à-dire ils sont en chemin. On est en chemin ici-bas sur la terre, c'est pourquoi il y a ce rapport du temps. On est ici-bas sur la terre pour mériter la vie éternelle, pour nous efforcer de coopérer à l'œuvre de Dieu. Et voilà que Adam et Ève, créés bien avant le péché, ont tout simplement à vivre cette vie de la grâce. Et voilà qu'au terme de leur vie, Dieu les aurait fait parvenir à leur fin, ce pourquoi ils ont été créés, ils seraient entrés en vie éternelle. Il y a donc le régime de la foi, il faut être du côté de Dieu. Il faut, alors pour eux c'est très facile d'avoir la foi, c'est beaucoup plus intuitif, ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils connaissent Dieu. Tandis qu'après le péché, Dieu va devoir mettre en place une pédagogie pour que l'homme le connaisse, pour rappeler sa loi, pour instaurer l'alliance. Tout ça parce que le but est toujours le même. Dieu veut faire de nous des fils. Il ne nous a pas fait seulement pour ce monde ici-bas qui passe. Il nous a créés pour la vie éternelle en paradis, pour la béatitude. La béatitude, c'est donc cet état dans lequel on est vraiment bienheureux. Parfois, dans la vie spirituelle, nous pouvons avoir la grâce momentanée d'un bonheur qui n'est pas de ce monde, qui ne durera pas comme durera l'éternité, donc il n'a pas de fin, mais il peut nous être donné dans des moments de conversion, dans des moments où il nous est donné de sentir sensiblement l'œuvre de la grâce, que le bonheur qui nous envahit à ce moment-là n'est pas de ce monde. On se rappelle la phrase de la Vierge, on est Bigourdan. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Et quand la Vierge dit cela, ce n'est pas une promesse qu'elle fait à Bernadette au sens où elle ne concernerait que Sainte Bernadette. La Vierge le dit là, eh bien, le grand projet que Dieu a pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas faits pour ce monde, si beau soit-il, nous sommes faits pour la vie éternelle, pour être adoptés par Dieu. Cette béatitude, nous le disons également dans les images, et ce sera une réalité pour nous, dans le terme de la vision. Nous avons ici-bas la foi. La foi, c'est croire sans encore avoir vu. Mais lorsque nous serons au ciel, nous n'aurons plus la foi, parce que nous verrons celui en qui nous avons cru sans le voir ici-bas sur la terre. Il y a l'espérance ici-bas sur la terre, dans ce régime de la foi. Il y avait aussi l'espérance pour Adam et Ève de la vie éternelle, même avant le péché. Et du coup, cette espérance, si vous voulez, elle s'arrête une fois qu'on devient bienheureux. Parce que quand on est bienheureux, on n'a plus rien à espérer. On est déjà comblé. Il n'y a plus d'espérance parce que nous sommes en présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand saint Paul nous parle dans ses épîtres de ces trois vertus théologales que nous sont la foi, l'espérance et la charité, saint Paul de nous dire, attention, la plus grande des trois, c'est la charité. La charité, c'est cet amour, et nous avons vu la semaine dernière que Dieu est amour, donc cet amour, il continue au ciel. Mais en revanche, il n'y aura plus de foi au ciel, il n'y aura plus d'espérance. La foi aura fait place à la claire vision de Dieu, et l'espérance à cette jouissance de la présence de Dieu. C'est ce qu'on dit dans les termes un peu plus précis de théologie. Il y a la fruition, c'est-à-dire c'est ce moment où eh bien, nous jouissons de la présence de Dieu, et cela pour l'éternité. Nous sommes faits pour ce bonheur éternel-là, celui d'être avec Dieu, celui d'être en intimité avec Dieu. Il est notre Père, et nous sommes ses enfants. C'est déjà tout cela qui rejaillit du mystère de Dieu en lui-même. Je vous ai dit, en dehors de tout commencement, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit-Saint. Le Père engendre le Fils est l'engendré du Père, il reçoit tout l'amour du Père, il lui rend tout cet amour, cette communion de l'amour a un nom, c'est l'Esprit-Saint. Mais vous voyez que nous sommes faits, nous aussi, pour entrer dans cette intimité qui unit Dieu le Père et Dieu le Fils. Lorsque Dieu crée, il ne faut pas imaginer avec un rapport du temps que Dieu a créé le monde et qu'aujourd'hui il ne serait plus en train de créer. Dieu, il est éternel, c'est-à-dire qu'il soutient toujours la création. Dieu est toujours à l'œuvre dans sa création, c'est lui qui maintient la création, c'est lui qui maintient l'être, les êtres qu'il nous a donnés, que nous sommes. Il nous maintient dans sa création. De telle sorte que lorsque Dieu crée, donc là pour nous il y a un commencement, c'est très important, c'est pour ça, hein, premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc là nous rentrons dans le mystère du temps, mais pour nous ce temps ce n'est que le cheminement qui de cette terre doit nous conduire à la vie éternelle. Et voyez, c'est déjà important de savoir que Adam et Ève, placés dans ce jardin d'Éden, étaient comme nous sous le régime de la foi, mais ils étaient très perméables à la grâce de Dieu. Après le péché, Dieu eh bien, se dit, ben, il continue, il poursuit toujours son éternel dessein, il nous a créés avec amour, mais voyez que pour lui, le commencement nous dit déjà la fin. Puisque Dieu est au dehors du temps, ça veut dire que quand il nous a créés, quand il nous a façonnés, puisqu'il n'y a pas de passé pour lui, il n'y a pas de futur, il n'y a que cette éternelle présence, il a déjà clairement l'idée de la fin. Hein, cette victoire dont nous savons que nous sommes les bénéficiaires parce que le Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, parce que nous savons dans la foi qu'il reviendra, qu'il jugera, en toute justice les vivants comme les morts, nous savons que tout cela, Dieu a déjà gagné. Hein? Eh bien, c'est déjà, voilà, cette espérance. J'ai été créé par amour, et c'est justement pour l'amour que je suis créé. Donc Adam et Ève, régime de la foi, ils sont en chemin, il va y avoir le péché, et après le péché, eh bien Dieu va décider toujours, eh bien, il nous faut toujours la grâce, hein, et du coup, cette grâce, elle pourrait nous paraître comme si on avait beaucoup plus besoin de la grâce. Il n'y a pas plus de grâce au sens de la quantité, mais pour nous, le besoin se fait beaucoup plus sentir que pour Adam et Ève. Je prends une autre image qui parlera peut-être davantage aux ménagères, c'est celle de la lessive. Laver une chemise blanche qui n'a pas de tache particulière avec une lessive, bon ben là, la chemise va être propre, mais on ne voit pas l'efficacité véritablement de la lessive. Bien sûr, elle est lavée, elle est propre, mais elle n'était pas non plus très sale au départ. Ça, c'est un peu l'économie originelle. Dieu donne sa grâce, l'homme est pleinement perméable à la grâce de Dieu, et donc du coup, voilà, la grâce est agissante, sanctifiante. En revanche, dans l'économie de la rédemption, parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur, parce qu'on commence à se dire finalement qu'il y a un mal-être intérieur, que l'on ne s'aime plus de la même façon, qu'on n'est plus trop capable d'aimer les autres avec la même harmonie, qu'il va y avoir ces rivalités, c'est déjà Caïn et Abel, hein, c'est très vite. Hein, toute cette humanité qui va vouloir s'unir pour être déjà contre Dieu, dans le récit de la tour de Babel, tout ça arrive assez vite. Eh bien, on voit du coup que la grâce... Elle va manifester sa puissance, son efficacité. Là, c'est l'image, hein, de cette chemise qui serait toute pleine de boue, toute sale. Là, du coup, on met la lessive et là, on se dit, ben, dis donc, la lessive, elle est efficace parce que je vois que le vêtement est aussi blanc qu'il ne l'était lorsque je l'ai acheté. Bien, vous voyez, dans cette image-là, c'est ce que dit saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabonder. Mais attention, surabonder, ça ne veut pas dire qu'on aurait besoin d'une plus grande quantité de grâce. On a besoin de la même quantité de grâce, s'il faut parler du mot quantité. C'est très humain, vous voyez, c'est très maladroit comme expression. Saint Paul dit surabonder dans le sens où nous, on fait l'expérience de notre péché, de notre petitesse, et là, on voit la grandeur de Dieu qui vient nous sauver. Hein? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est surtout qu'elle manifeste combien nous en avions besoin, c'était sans doute moins visible, moins criant, dans l'état d'harmonie parfaite dans lequel Adam et Ève ont été créés. Donc il nous faut cette nature, hein, que nous recevons de Dieu. À cette nature, il faut cette vertu que Dieu nous donne, cette force qui est la grâce. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à la gloire. Et cette gloire, eh bien, c'est la vie au ciel. Les anges, s'ils nous sont supérieurs, nous dit saint Thomas d'Aquin, bien sûr, c'est parce que eux, maintenant, pour nous, maintenant, ils sont déjà glorifiés, alors que l'humanité, ben, elle a encore à être parfaitement glorifiée. Donc ça, il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes créés pour cela. Et du coup, avoir la foi, c'est surtout avoir un autre regard sur les événements de notre propre vie, sur les événements de notre pays, sur les événements du monde. C'est-à-dire qu'avoir la foi, c'est ne pas oublier que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu, que nous sommes issus de cet amour de Dieu et que nous savons que Dieu, puisqu'il a donné cet amour dès le départ, eh bien, ce qui est au départ va se retrouver à la fin. C'est la raison pour laquelle Dieu se présente en disant « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis pour vous le commencement » et la fin. Non pas que Dieu est lui-même un commencement et une fin, il est cette éternelle présence, mais il est notre commencement, l'alpha, et il est notre fin, l'oméga. Je suis le début et la fin de toute chose. Hein? Et Dieu attend de nous, eh bien, qu'on lui fasse confiance. Et cela, si vous voulez, quand on voit ainsi l'économie originelle, l'économie de la rédemption, tout ce que nous approfondirons, tout ce que Dieu met en place pour se révéler et pour venir nous sauver, ne poursuit qu'un but, faire de nous ses propres fils. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il va même ensuite jusqu'à envoyer son fils, l'engendrer, la seconde personne de la Trinité, qui va s'abaisser. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Vous l'avez abaissé, même en dessous des anges. Ça veut dire, voilà, il aurait été un ange encore. Bon, c'est quand même assez digne. Mais là, en plus, il les a abaissés en dessous des anges jusqu'à devenir un homme, hein, tout en demeurant Dieu, et il est venu nous sauver. C'est une des questions, si vous voulez, fondamentales qui va habiter la théologie. La question, dans sa formulation canonique, est la suivante. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné? Alors saint Thomas d'Aquin, quand il doit répondre à une telle question, répond avec une très grande prudence. En substance, c'est « Force est de constater que les saintes Écritures lient toujours, du verbe « lier », lient toujours l'incarnation du Verbe de Dieu au péché de l'homme. De telle sorte que pour saint Thomas d'Aquin, il le dit avec prudence, car rien n'est impossible à Dieu. Mais il dit toujours avec prudence que, voilà, force est de constater que dans les Écritures, chaque fois qu'on nous parle de l'incarnation, on nous dit si Dieu s'est incarné, s'il est devenu homme, c'est parce que l'homme avait péché. Alors, pour approfondir cela, il faut se dire, voyez, Adam et Ève, dans l'économie originelle, ils n'ont pas besoin, si vous voulez, que Dieu s'incarne au sens de prenne chair. Hein. Ils sont soumis déjà au gouvernement du Fils de Dieu, au gouvernement invisible du Verbe de Dieu. En revanche, avec le péché, et au moment opportun, hein, le kairos, on l'avait vu, au moment que Dieu juge opportun pour notre salut, voilà que le Verbe va se faire chair de la bienheureuse Vierge Marie. Mais pourquoi? Parce qu'il a besoin de rendre, il a besoin, nous avons besoin que le Verbe de Dieu se rende visible à nos yeux, que son gouvernement soit vraiment visible. Ce gouvernement pour nous, il passe par la grâce, mais n'imaginez pas que Adam et Ève, pour recevoir la grâce, avaient besoin des signes sensibles dans lesquels s'enracine la puissance des sacrements. Non. Ils n'avaient pas besoin, si vous voulez, de faire la première communion, ils n'avaient pas besoin de cheminer et de se préparer à la confirmation, ils n'avaient pas besoin, avant le péché, du sacrement de la confession, ils n'avaient pas besoin non plus du sacrement des malades, parce que nous voyons aussi que la maladie va être comme une conséquence de ce péché, quelque chose qui est désordonné en nous, dans le monde, dans l'humanité. Donc du coup, les sacrements, hein, avoir besoin de l'eau pour être baptisé, pour manifester que on est fils de Dieu, et cette grâce que Dieu donne dans le sacrement, ben tout cela dépend justement de notre état et de pécheurs et d'hommes créés. Hein, nous sommes des créatures. Aujourd'hui, pour recevoir la grâce qui était donnée ainsi à Adam et Ève, qui la recevait dans l'économie originelle avec une grande perméabilité, ben aujourd'hui, nous, c'est beaucoup plus difficile. Et Dieu, pour nous donner cette puissance, doit passer aussi par des gestes concrets. Pour le baptême, il faut de l'eau et il faut cette parole « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Voilà. Pour le sacrement de la confirmation, il faut l'imposition des mains, de l'évêque, le souffle. Il faut falloir l'onction d'huile. Hein, pour le sacrement de la confession, il va falloir aussi la matière. Quelle est cette matière? Eh bien, l'aveu de nos péchés. Voilà quelle est la matière du sacrement. Pour célébrer la messe, il faut du pain, il faut du vin, et il faut le ministre ordonné idoine pour pouvoir recevoir la présence réelle du Seigneur, cette grâce sanctifiante qui nous est donnée dans les sacrements. Donc du coup, je reviens à ma question. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné? Alors, certains ont essayé de dire, mais oui, parce que c'est tellement merveilleux de voir Dieu qui vient dans la création, que Dieu, du coup, assume l'humanité, c'est comme le couronnement du genre humain. Alors, oui, on peut se dire, effectivement, le fait que le Christ devienne un homme, ça donne à notre humanité, si vous voulez, une noblesse que les anges n'ont pas eue. C'est-à-dire, le Dieu n'a pas eu besoin, pour sauver les anges, de devenir lui-même un ange. Hein, donc du coup, on pourrait voir ça. Mais attention, saint Thomas d'Aquin nous dit « attention », parce que, si vous voulez, lorsque Dieu crée, Dieu il crée déjà à partir de rien. À partir de rien. Ce n'est pas, si vous voulez, comme du temps des Grecs. Le temps des Grecs, enfin des philosophes grecs et avant eux de la Grèce antique, comme on dit, n'ont pas l'idée de création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Quand on lit un ouvrage de Platon qui a fait, qui a eu une très grande postérité, dans, même dans la chrétienté, qui est le Timée, il va nous parler justement de ce Dieu harmonisateur qu'il appelle le démiurge. Hein ? Chez les Grecs, il y a le chaos au début, c'est-à-dire vraiment le monde désordonné. Et pour passer au cosmos, qui là est le monde harmonisé, c'est juste en fait que le Dieu démiurge, il a façonné un chaos, il a mis de l'ordre là où il y avait le grand bazar. Mais la révélation biblique va beaucoup plus loin. Dieu n'a pas simplement modelé quelque chose qu'il aurait trouvé. Il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à la création. Non, il crée. Il crée à partir de rien. De telle sorte, si vous voulez, qu'on n'a pas besoin que le Christ, en tant que tel, si on n'avait pas péché, prenne notre humanité, parce qu'on aurait été sauvé. Et surtout, on est fait pour la vie éternelle en paradis. On n'est pas fait pour le bonheur de ce monde. Il y a un bonheur, et on le verra, une autonomie du monde. Dieu a voulu tout cela, on le verra en son temps. Mais, si vous voulez, on n'aurait pas eu besoin que Dieu s'incarne dans la chair, parce que la grandeur déjà de l'homme, de l'humanité, c'est de se recevoir de Dieu. Et Dieu, quand il se donne, eh bien, il se donne sans compter. Alors bien sûr, on se réjouit que le Christ soit venu à notre secours. Hein, et on se dit, Dieu aurait pu nous sauver autrement. Dieu aurait pu envoyer un ange pour nous sauver. Il n'était pas obligé de venir lui-même à notre secours. Eh bien non, voilà que Dieu, hein, il est dans la nature de l'amour de se donner. Eh bien voilà que le Fils vient se donner en sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour nous sauver. Je vous le disais la semaine dernière, nous avons à devenir, par cette grâce que nous recevons maintenant sensiblement dans les sacrements, nous avons à devenir par la grâce Fils, comme lui, Jésus, enfin Jésus c'est son prénom humain, comme lui, Dieu, seconde personne de la Trinité, est le Fils du Père. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et bien là, c'est là où on se rend compte que le regard de la foi, du coup, change tout ce que nous avons à traverser. Parce que d'avoir ainsi cette claire vision des choses, bien on se dit, voilà quelle est ma place, voilà pourquoi j'ai du mal à prier, voilà pourquoi j'ai de la mauvaise volonté, parce qu'il y a ce péché en moi, et voilà que le Christ vient à mon secours, qu'il me donne les moyens pour me sauver, ces moyens que sont les sacrements, il est venu, ses enseignements, parce qu'il est pour nous la cause exemplaire. Quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans telle situation ? Ben, il faut se poser la question en ce sens, qu'aurait donc fait le Seigneur Jésus à ma place ? Ça donne souvent une grande lumière, hein, et souvent moins de tergiversations dans lesquelles le démon pourrait essayer un peu de nous perdre, de nous rattraper par l'orgueil ou de nous rappeler telle et telle rancune. Non, il ne faut pas oublier qu'on vient de Dieu, qu'on retourne à Dieu, qu'on est fait pour un bonheur qui nous dépasse, ce bonheur de la vie éternelle, hein, et que du coup Dieu n'a rien fait à l'économie. Il a créé le monde pour nous, et il a créé le monde à partir de rien, avec une immense variété. Hein, quand on pense aux différentes espèces d'oiseaux, à la beauté de leur plumage, de leur chant, il n'y en a pas deux semblables, pour nous c'est pareil. Il n'y a pas deux êtres humains qui seraient semblables. Et je ne parle pas physiquement, parce qu'il y a aussi toute la vie de l'âme, de la mémoire. Dieu n'a rien fait à l'économie, ni même venir à notre secours. C'est dire de quel amour nous sommes aimés. Et du coup, ça, si vous voulez, ce regard de la foi, ben, nous permet quand même d'affronter eh bien, les situations pénibles que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre corps, dans nos familles, en notre état et en notre monde. Parce que du coup, on a aussi la vision de la fin. On sait pourquoi nous sommes faits. Ce sont ce qu'on appelle en philosophie les questions existentielles. Des questions eh bien, que tout le monde à un moment donné se pose, et en particulier aussi les petits-enfants, même s'ils ne les poseraient pas explicitement comme ça. D'où je viens ? Pourquoi je suis là sur la terre ? Hein ? Et qu'est-ce que je vais devenir ? Ce sont des questions vraiment existentielles. Et voyez que lorsqu'il n'y a aucune réponse donnée à ces questions, ben, du coup, l'homme, la femme, l'enfant s'effondre parce qu'il n'a pas de fondation. Ben, nous savons que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu. Et nous venons de Dieu par un acte volontaire d'amour. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous a créés. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Et Dieu veut se donner à moi. Et il se donnera à moi, pauvre créature, en plénitude, lorsque je serai rentré dans la vie bienheureuse du paradis. Donc surtout, n'oublions pas ce pourquoi Dieu nous a créés, cette immense intimité. Dieu veut faire de nous des fils adoptifs. Et je procède de cet amour de Dieu, et c'est bien cet amour qui m'est promis à la fin des temps. Saint Thomas d'Aquin, je vous avais dit, nous dit, il est dans la nature de l'amour de se donner. Puis nous verrons aussi, la semaine prochaine, que Dieu est également le bien. Et il aura cette phrase, bien ailleurs, en disant, il est dans la nature du bien de se communiquer. Bien, on verra aussi à quel point cette bonté, du coup, vous voyez, entre l'amour et le bien, quand on voit, c'est la bonté. Bien, nous venons de cette bonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout relativiser. Bon, mais c'est pas grave, mes péchés, Dieu vient me sauver. C'est vrai que Dieu vient me sauver. Dieu attend que je coopère à sa grâce. Il ne faut pas non plus tout attendre de la grâce. Pourquoi, nous dit saint Thomas d'Aquin? Parce que la grâce ne supplée pas la nature. Si ma nature humaine, elle est complètement viciée, elle est faussée, j'ai beau recevoir la grâce. Non, la nature, c'est une chose, la grâce, c'est une autre. Il me faut coopérer à ce salut. Et ça veut dire que Dieu ne me sauve pas indépendamment de moi-même, c'est comme si je ne le veux pas. Maintenant, Dieu respecte cette liberté. Mais j'ai à coopérer par ma nature, à coopérer en recevant la grâce, coopérer en m'efforçant de vivre selon le bien, de mériter cette vie éternelle autant que je puisse par mes petits moyens. Mais Dieu attend ça de nous. Il attend de nous quand même de voir, je viens vous sauver, mais il faut quand même reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Voilà un peu ce qu'il fallait dire dans cette quatrième rencontre. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, et puisqu'on cherche dans ce catéchisme à avoir une vision un peu complète de la foi, j'insiste toujours sur l'économie originelle, parce qu'il faut voir comment nous avons été créés. Ça nous permet de savoir comment aussi nous serons en paradis, nous aurons cette grande intimité avec Dieu. Puis il y a l'économie de la rédemption qui là nous concerne de plein pied, puisque nous sommes pécheurs aujourd'hui, parce que nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Dieu veut faire de nous des fils, il nous aime tant et il attend de nous, et bien que nous répondions à son amour par un amour sincère.